Vous aimez le frisson, le mystère, mais aussi avoir peur? Venez écouter Hôtel Gorgias, la fiction audio phénomène multi-récompensée et qui a déjà réuni plus de 200 000 auditeurs pour sa première saison. Installez-vous, mettez vos écouteurs et laissez-vous immerger dans cette aventure exclusivement audio. Votre voyage va commencer et se prolonger avec une toute nouvelle saison déjà disponible. Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre. Retrouvez Hôtel Gorgias sur toutes les plateformes de streaming.
Science infuse
vers l'infini et au-delà.
Wolverine, Cyclope, Tornade, le professeur Xavier, ça vous parle ?
Me battre avec vous, rejoindre l'équipe, être un X-Men ? Mais pour qui tu te prends, bon Dieu ? Tu es une mutante.
Ce sont tous des X-Men, des personnages tirés de comics bien connus qui ont été adaptés au cinéma depuis. Ils ont tous des super-pouvoirs particuliers. Griffes osseuses rétractables et guérison accélérée, rayons laser oculaires, contrôle de la météo et de l'orage, télékinésie, bref, des surhumains.
C'est tout de même insolite.
Dans les comics et les films, on nous explique que leurs pouvoirs sont dus à des mutations de leur ADN. Dans ces œuvres, des mutants aux super-pouvoirs coexistent donc avec des humains tout à fait normaux. Encore un exemple de fiction qui s'inspire de réalités biologiques. Des mutations peuvent avoir lieu et les mutants existent. En revanche, désolé de vous décevoir, mais aucun super-pouvoir n'a encore été observé. Mais du coup, qu'est-ce qu'une mutation et comment ce phénomène est-il provoqué ?
C'est une excellente question.
Allez, pour y répondre, parlons un peu génétique. Le phénomène de mutation a lieu au niveau d'une molécule bien connue, l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, de son nom complet. C'est une grosse molécule qui se trouve dans les noyaux de chacune de nos cellules. Un noyau cellulaire mesure quelques micromètres de diamètre, c'est 10 000 fois plus petit qu'un centimètre.
Minuscule.
La molécule d'ADN y loge, car elle y est très condensée, très enroulée sur elle-même. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble l'ADN ? Imaginez une échelle avec les deux rampes et les barreaux au milieu. Maintenant, imaginons que cette échelle soit souple et qu'on la tord aux deux extrémités en sens inverse. On obtiendrait une sorte d'escalier en colimaçon. La molécule a à peu près cette forme. On dit qu'elle est en double hélice. Les barreaux de l'échelle symbolisent des composants bien particuliers de l'ADN, les bases azotées. Il en existe quatre. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. En abrégé, ça donne A, T, C et G. L'ADN de tous les êtres vivants en est constitué, celui des bactéries, des végétaux, des humains. Sur chaque barreau de notre échelle imaginaire se trouvent deux bases azotées qui se font face, et pas n'importe comment. L'adénine est toujours en face de la thymine, et la cytosine est toujours en face d'une guanine. L'ADN est donc une très longue chaîne de ces bases azotées, et c'est l'ordre dans lequel elles s'enchaînent qui est important, c'est leur séquence. Même si l'ordre de mes bases azotées contenues dans mon ADN est semblable au vôtre, car a priori nous sommes tous les deux des Homo sapiens, elle n'est pas identique. C'est ce qui fait que biologiquement, je ne suis pas vous, et vous n'êtes pas moi.
Vous êtes sûr ?
Ah, comme je vous le dis.
Certains morceaux d'ADN sont des gènes. Ce sont ces séquences particulières qui codent pour nos caractères. Par exemple, il y a un gène dans notre ADN qui peut permettre de synthétiser la lactase, une protéine qui permet la digestion du lactose, le sucre du lait. Ce sont nos gènes qui, en grande partie, font de nous ce que nous sommes. C'est pourquoi on peut dire que l'ADN est le plan d'architecture de notre corps, le support de l'information génétique.
Ça, c'est une chaîne ADN humaine normale, d'accord ? Vous, moi, le premier venu.
Ça y est, vous avez la molécule d'ADN en tête, une double hélice composée d'un long enchaînement d'une multitude de G, de A, de T et de C ? Et bien maintenant, imaginons qu'une base azotée soit remplacée par une autre, qu'accidentellement, un T soit remplacé par un G. C'est une substitution. Eh bien ça, c'est une mutation, car la séquence de base azotée s'en trouve modifiée. Une mutation, ça peut aussi être la perte d'une base azotée. C'est ce qu'on appelle une délétion, quand par exemple un T est supprimé de la séquence. A l'inverse, une base azotée peut s'ajouter à une séquence existante. Un C qui s'insère entre deux bases, par exemple. Même si on arrive à provoquer ce genre de mutation en laboratoire, ce phénomène a lieu aléatoirement dans la nature.
Quel hasard !
Le hasard, déjà, cher monsieur Rémy, a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il est naturel.
Bon, et alors, qu'est-ce que ça provoque d'avoir un C à la place d'un A au milieu d'une gigantesque séquence de bases azotées ? C'est grave ? Eh bien, ça peut l'être. La plupart du temps, les mutations n'ont pas d'effet. Elles peuvent se mettre en place au niveau de régions de l'ADN qui ne sont pas des gènes et qui ne codent donc pour aucun caractère. Et puis, même si un gène est muté, des mécanismes moléculaires peuvent le « réparer », entre guillemets. Et même s'il ne l'est pas, la mutation peut n'avoir aucune conséquence sur le processus qui permet au gène de s'exprimer et de mettre en place un caractère. Dans ce cas, que le gène soit muté ou non, le caractère se met en place de la même façon. En revanche, parfois, un gène muté provoque l'expression d'un caractère modifié. Par exemple, la substitution d'une adénine par une thymine à un endroit bien particulier du gène codant la structure de l'hémoglobine provoque la formation de globules rouges en forme de croissant au lieu de disque. Le problème, c'est que ces globules rouges en forme de croissant circulent moins bien dans les petits vaisseaux sanguins et qu'ils véhiculent nettement moins bien le dioxygène dans le sang, entraînant des difficultés respiratoires et des douleurs chez les personnes qui possèdent cette mutation. C'est la maladie que l'on appelle la drépanocytose ou l'anémie falciforme. Vous voyez, parfois, une mutation de l'ADN à un endroit précis provoque une réaction en chaîne qui peut entraîner des conséquences négatives sur la survie de l'individu qui la possède. L'inverse existe également. Une mutation peut favoriser la survie d'un individu. En 1977, une sécheresse a frappé l'archipel des Galapagos. Certains oiseaux de la famille des passereaux, que l'on appelle les pinsons de Darwin, possédaient un ensemble de mutations leur procurant un bec plus grand que les autres pinsons non mutés. Ce caractère leur a permis de mieux se nourrir, car les grosses graines étaient plus abondantes que les petites durant cette période de sécheresse.
Ils ont beaucoup de chance, oui.
On est loin d'un super pouvoir à la X-Men, je vous l'accorde. Mais quand même, dans ce milieu, à ce moment-là, c'était un vrai avantage de survie. En fin de compte, le phénomène de mutation n'est pas rare du tout. C'est un phénomène fréquent qui a lieu aléatoirement au niveau de l'ADN de tous les êtres vivants. Souvent, les mutations n'ont aucune conséquence, mais des fois, elles peuvent provoquer la mise en place de nouveaux caractères, de maladies ou conférer des avantages de survie et de reproduction. C'est un processus intimement lié à la sélection naturelle. Nous en avons déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur l'évolution. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Nous en reparlerons, il y a tant à dire. Merci de m'avoir écouté, les mutants. N'hésitez pas à laisser un bon commentaire et à bientôt.